Chapitre 8. Sauvetage. Seule la brise qui venait de la mer rendait la tâche supportable. Le soleil cognait dans le ciel sans nuages. Quand Brashen se tournait vers les vagues, les reflets l'éblouissaient et lui vrillaient les tempes. Il grimaçait plus encore en voyant les ouvriers se traîner avec indolence et accomplir leur besogne sans énergie ni enthousiasme. Il se tenait tout raide sur le pont incliné du parangon. Il ferma les paupières puis les rouvrit en tâchant de considérer le travail d'un œil neuf. Le navire avait été halé sur la plage plus de 20 ans auparavant. Abandonné, négligé, battu par les éléments. S'il n'avait pas été en bois sorcier, il ne serait resté de lui qu'une carcasse. Les tempêtes et les courants avaient conspiré à pousser le parangon à la limite des vives eaux. Le temps avait amoncelé du sable contre sa coque. Il gisait la quille vers l'eau, incliné sur la grève. Seules les grandes marées l'atteignaient désormais. La solution était apparemment facile. Il fallait le dégager du sable, passer sous la coque des madriers qui feraient office de chantier à rouleau, placer un contrepoids suffisamment lourd au sommet du grand mât fracassé pour mettre le navire à la bande, à la grande marée de la fin du mois, ancrer une gabarre près de la côte, tendre une haussière depuis le parangon jusqu'au treuil, à l'arrière de la gabarre. Des hommes sur la plage le feraient rouler sur les chantiers à l'aide des leviers, et d'autres sur la gabarre manœuvreraient le treuil, le navire glisserait sur le flanc jusqu'à l'eau. Le contrepoids sur sa coque le maintiendrait à la gîte et lui permettrait de flotter en eau peu profonde. Une fois qu'il l'aurait déhalé en eau profonde, il pourrait le redresser. Alors, on verrait pour la suite. Brashen soupira. Il était possible de décrire l'opération en quelques mots. Mais on pouvait travailler pendant une bonne semaine sans se rapprocher de la solution. Tout autour du navire, des hommes trimaient avec pelle et brouette. La veille, on avait flotté de lourds madriers à marée haute. Solidement cordés, ils restaient en souffrance sur la plage. À côté, il y avait un autre train de flottage. Si tout allait bien, Parangon dévalerait sur les tins pour être renfloué. Si tout allait bien. Parfois, l'espoir semblait vain. La nouvelle équipe d'ouvriers se traînait mollement sous le soleil brûlant. Les marteaux résonnaient dans l'air chauffé à blanc. La roche affleurait sous le sable. Par endroits, on pouvait la faire voler en éclats pour pousser l'étain sous le navire. À d'autres endroits, les ouvriers glissaient des leviers sous la coque, puis essayaient ensemble de soulever afin d'en placer d'autres plus profonds. Chaque déplacement délabrait un peu plus le vieux vaisseau. Après des années sur le flanc, il était inévitable que la membrure et les bordages aient joué. D'après ce que Brashen pouvait constater, la coque n'avait pas été trop malmenée, mais il faudrait attendre que le bateau soit redressé pour en être sûr. Une fois qu'il serait droit et à flot, et Brashen priait pour que Parangon fût remis à flot, le véritable travail pourrait commencer. La coque entière devrait être carénée. Puis, il faudrait dresser un nouveau mât. Brashen interrompit brusquement le fil de ses pensées. S'il se projetait si loin, il risquait d'être complètement découragé. À chaque jour suffit sa peine. C'était tout ce que sa tête douloureuse pouvait supporter. Machinalement, il se passa la langue à l'intérieur de la lèvre pour y chercher un morceau de sindine inexistant. Même les plaies profondes causées par la drogue commençaient à cicatriser. À croire que son corps oubliait la drogue plus rapidement que son cerveau. Son irrésistible envie de sindine était aussi implacable que la soif. Il avait vendu sa boucle d'oreille pour un bâton 2 jours auparavant et le regrettait. Non seulement cela avait retardé sa désaccoutumance, mais la drogue de mauvaise qualité ne lui avait procuré qu'un soulagement illusoire. Pourtant, s'il avait eu le moindre sou, il aurait été incapable de résister à la tentation. D'argent, il n'avait que celui se trouvant dans le sac confié à ses soins par Onika. La veille, il s'était réveillé, trempé de sueur, le cœur battant. Il s'était assis et était resté ainsi jusqu'à l'aube, s'appliquant à soulager ses crampes en se frottant les mains et les pieds, tout en contemplant la bourse de plus en plus plate. Quel mal y aurait-il à prélever quelques pièces pour se remettre d'aplomb? La sindine le tenait éveillé et lui donnait de l'énergie. Vers l'aube, il avait ouvert la bourse, compté quelques pièces, puis il les avait remises et était allé à la coquerie pour se préparer un second pot de camomille. Ambre, occupée à tailler un morceau de bois, avait eu la sagesse de ne rien dire. Il ne laissait pas de s'étonner de la facilité avec laquelle elle s'était adaptée à sa présence. Elle acceptait ses allées et venues sans faire de commentaires. Elle continuait d'occuper la cabine du capitaine. Il serait toujours temps de la récupérer pour lui quand le parangon serait remis à flot. Pour l'heure, il avait accroché son hamac dans l'entrepont. Vivre à bord du navire incliné devenait chaque jour plus difficile au fur et à mesure que l'angle de la gîte s'aggravait.
« Parangon, non !»
La voix d'Ambre, incrédule, s'éleva en même temps qu'un sinistre craquement. On entendit des cris affolés. Brachen se précipita et déboucha sur le gaillard d'avant au moment où un madrier se fracassait sur un rocher qui pointait hors du sable. Tout autour, les ouvriers reculaient. Ils se lançaient des avertissements, se montraient du doigt le madrier et le trou qu'il avait fait dans le sable en atterrissant. Sans un mot, le visage impassible, Parangon recroisa les bras sur sa poitrine musclée. Son regard aveugle fixait la mer.
« Maudit sois-tu ! » s'exclama Brachen, fortement secoué. Il jeta un œil noir aux ouvriers. « Qui l'a laissé prendre ce madrier ?»«
On était en train de le mettre en place, » répondit un vieux tout blême. « Il a tendu le bras et nous l'a arraché. Par ça, comment savait-il qu'il se trouvait là ?»
La voix du vieil homme tremblait de crainte superstitieuse. Brachen serra les poings. Si cette manifestation de hargne de la part du navire avait été la première, il aurait pu en être surpris. Mais depuis le début, Parangon avait entravé les travaux. Ses gestes d'humeur et ses démonstrations de force décourageaient les ouvriers que Brachen avait du mal à garder. Et par-dessus le marché, la vive nef ne lui avait pas dit un mot poli. Il se pencha par-dessus la lisse. Du coin de l'œil, il repéra Althea qui arrivait pour sa journée de travail. La scène figée qu'elle découvrait la laissa perplexe.
« Reprenez le travail »
brailla-t-il à l'endroit des ouvriers qui restaient bouche bée et se poussaient du coude. Il montra du doigt le madrier.
« Ramassez-le et remettez-le en place !»« Pas moi !»
déclara un ouvrier en s'épongeant le front puis en jetant son maillet sur le sable.
« Il aurait pu me tuer. Il ne voit pas ce qu'il fait, à supposer qu'il ne l'ait pas fait exprès. Il a déjà tué, tout le monde le sait. » « Je tiens plus à ma peau qu'à ma paye. Je m'en vais. Je veux mon argent. »«
Moi aussi. Pareil pour moi. »
Brachen enjamba la lisse, puis se laissa tomber lestement sur la plage. Son visage ne trahissait pas la douleur qui lui martelait le crâne. Il s'avança vers les hommes d'un air menaçant, en espérant qu'il ne serait pas obligé de reculer. Il se planta en face du premier qui avait parlé.
« Tu veux être payé ?» Alors tu restes là et tu finis ta journée. Si tu t'en vas maintenant, tu n'auras pas un sou. »
Il les regarda tous d'un œil mauvais en espérant que sa manœuvre serait efficace. Si ceux-là s'en allaient, il ignorait où il pourrait en dénicher d'autres. C'étaient des piliers de taverne qui n'acceptaient de travailler que pour gagner de quoi boire le soir. Il avait été obligé de leur faire miroiter la haute paix pour qu'ils acceptent de trimer sur ce bateau de malheur. Alors que les hommes marmonnaient, mécontents, il aboya «
C'est à prendre ou à laisser. Je ne vous ai pas embauché pour une demi-journée, et je ne paie pas une demi-journée. Récupérez-moi ce madrier tout de suite. »
« D'accord, je continue, » dit l'un. « Mais pas à côté de lui. Pour me faire écraser, merci, pas question. »
Brachen cracha de dégoût.
« Alors va à la quille, cœur de lion. Ambre et moi, on va se charger de la proue si personne n'a le courage d'y aller. »
Un méchant sourire se dessina lentement sur les lèvres de Parangon.
« Il y en a qui préfèrent une mort rapide, d'autres une mort lente. Il y en a qui se fichent que leur fils naisse sans jambes et aveugle comme ce maudit bateau. Ramassez vos maillets et remettez-vous au travail. Pourquoi s'inquiéter de ce qui arrivera demain ?»
dit-il, et il ajouta en baissant la voix.
« Pourquoi penses-tu que tu vas vivre jusque-là ? »
Brachen fit volte-face.
C'est à moi que tu parles ? Demanda-t-il. Tu t'es tu pendant des jours et maintenant tu me dis ça ?
Une expression fugace passa sur la physionomie de Parangon. Brachen n'aurait pu nommer l'émotion qu'il y lisait, mais elle lui glaça le sang et lui serra le cœur. Alors la figure de proue reprit son air arrogant, soupira et se replongea dans le silence. La colère de Brashen explosa. L'éclat éblouissant du soleil lui enflamma le cerveau et ranima sa douleur insupportable. Il ramassa un seau d'eau que les ouvriers avaient laissé près de la proue et il le lança de toutes ses forces à la figure de Parangon. La vive nef fut un soubresaut et poussa un rugissement furieux. L'eau dégouttait de sa barbe et ruisselait sur sa poitrine. En dessous, Brashen jeta le seau vide dans le sable. Il gronda « Ne fais pas semblant de ne pas entendre. Je suis ton capitaine, sacré nom, et je ne tolérerai pas l'insubordination de toi ou de qui que ce soit. Mets-toi bien ça dans ta tête de bois, Parangon. Tu vas naviguer. D'une façon ou d'une autre, je vais te tirer dans l'eau et remettre de la toile sur tes os. Alors, tu as le choix, mais décide-toi vite, car je suis à bout de patience. Soit tu sors d'ici en gitant, en roulant, en boudant comme un petit morveux, et toute la fichue flotte te regardera comme ça. Soit tu relèves la tête, et tu fais voile comme si tu te fichais éperdument de tout ce qu'on a dit sur toi. Tu as une chance de leur donner tort à tous. Tu peux leur faire ravaler toutes leurs injures. » Soit tu quittes le port comme une vive nef de Terrilville et on fera passer un sale quart d'heure aux pirates. Soit tu leur prouves qu'ils ont eu raison depuis le début et que c'est moi l'imbécile. Je te dis cela parce que c'est le seul choix que tu as. On ne te laissera pas décider si tu y vas ou pas parce que c'est moi le capitaine et j'ai déjà décidé. Tu es un navire, pas un pot de fleurs. Tu as été fait pour naviguer et on va naviguer. Est-ce que c'est clair ? La figure de proue serra les mâchoires et croisa les bras sur sa poitrine. Brashen pivota sur ses talons et prit un deuxième saut. Avec un grognement, il le lança à la figure de Parangon, qui eut un mouvement de recul, toussa et cracha.
« C'est clair ?»
hurla Brashen.
« Réponds, sacré nom !»
Autour de lui, les ouvriers étaient pétrifiés de crainte. Ils le voyaient déjà mort. Althea avait agrippé le bras d'ambre. Les yeux de la fabricante de perles flamboyaient d'indignation. Si son amie ne l'avait pas retenue, elle aurait foncé sur Brashen et se serait interposée entre lui et le navire. D'un signe, Althea lui enjoignit le silence. Ambre serra les poings mais tint sa langue.
« C'est clair !»
finit par répondre Parangon sur un ton saccadé qui ne témoignait d'aucune contrition. Mais il avait répondu. Brashen se raccrocha à ce petit triomphe.
« Bien, » reprit-il d'une voix étonnamment calme. « Je te laisse réfléchir. Tu peux me faire honneur, je crois. Il faut que je retourne travailler. Je compte bien qu'en reprenant la mer, tu retrouves ton allure du premier jour. »
Il marqua une pause. « Peut-être qu'on peut leur faire ravaler toutes les calomnies qu'on a dites aussi sur moi. » Il se tourna en souriant vers Ambre et Althea. Ni l'une ni l'autre ne lui rendirent son sourire, qui finit par s'évanouir. Il soupira et secoua la tête d'un air résigné. Il s'adressa à elle à voix basse. « Je fais de mon mieux, à ma manière. Je vais naviguer. Je dirai et ferai tout ce qu'il faut pour remettre ce bateau à l'eau. » Et devant leur silence désapprobateur, il leur lança un regard furieux.
Il faudrait savoir si vous voulez ou non que ça se passe bien. Mais en attendant, c'est nous qui travaillons à la proue. Ce soir, je trouverai peut-être à embaucher d'autres ouvriers qui n'ont pas peur de lui, mais je ne peux pas perdre ma journée à chercher maintenant, dit-il. Et il ajouta en montrant le madrier, « On va remettre ça en place. S'il croit que vous avez peur de lui, s'il croit qu'il peut s'en tirer en se comportant comme ça, nous sommes perdus. Y compris Parangon. »
Ce fut le début d'une longue journée qui les fit transpirer. Les teints étaient lourds. Brashen se montra rosse avec les femmes, qu'il ne ménagea pas plus qu'il ne se ménagea lui-même. Il travailla en plein soleil, jusqu'à sentir son cerveau bouillir. Ils creusèrent et transportèrent le sable. Les rochers qu'ils découvraient étaient enclavés, trop gros pour être déplacés par une seule personne. Il se surmena avec acharnement pour punir son corps de son irrépressible envie de sindine. Si Althea ou Ambre avaient demandé quartier, il le leur aurait accordé. Mais Althea était aussi entêtée que lui, et Ambre remarquablement tenace. Elles maintinrent le rythme qu'il avait fixé. et qui plus est, en travaillant sous le nez de Parangon, elles l'inclurent dans leur conversation malgré son silence obstiné. Les efforts et le courage des deux femmes semblèrent faire honte aux ouvriers. Un premier d'abord, puis un second, vinrent les rejoindre à la proue. Quand l'ami d'Ambre, Jake, arriva de la ville pour voir ce qu'il faisait, elle leur prêta main forte pendant une heure ou deux. Cliff allait et venait, il était autant dans leurs jambes qu'il se rendait utile. Tantôt Brachen le rudoyait, tantôt il le complimentait, mais le gamin, après son temps comme esclave, avait le cuir endurci. Il travaillait avec vaillance, plus désavantagé par sa taille que par sa maladresse. Il avait toutes les qualités d'un bon matelot. Contre sa conscience, Brachen le prendrait probablement avec lui quand il partirait. C'était mal, mais il avait besoin de lui. Les autres ouvriers sur le navire les observaient à la dérobée. Peut-être avaient-ils honte de voir des femmes accomplir le travail qu'ils avaient refusé. Et ils forcèrent la cadence. Brachen n'aurait jamais cru que ce groupe lamentable de vauriens gardait des restes de fierté. Il en profita pour les pousser davantage. L'après-midi était étouffante dans le petit salon. Malgré les fenêtres ouvertes, il n'y avait pas un souffle d'air. Malta tira sur le col moite de sa robe.
« Je me souviens qu'avant, on buvait du thé glacé ici, et la cuisinière faisait ses bons petits gâteaux au citron. »
Dilo paraissait plus affecté que son ami par la gêne que connaissait la famille Vestrit. À vrai dire, ses remarques désobligeantes sur la maison agaçaient quelque peu Malta.
« Les temps ont changé, »
constata-t-elle d'un ton las. Elle s'approcha de la fenêtre et se pencha pour regarder la roseraie négligée. Les buissons s'épanouissaient voluptueusement et s'étalaient dans tous les sens, ravis de leur indiscipline.
« La glace est chère, » ajouta-t-elle. « Mon père en a acheté deux blocs hier, » dit Dilo négligemment en s'éventant. « La cuisinière fait des crèmes glacées pour le dessert ce soir. »
« Ah, c'est bien !» approuva Malta d'une voix sans timbre.
Dilo allait-elle continuer encore longtemps comme ça? D'abord, elle était arrivée dans une robe neuve avec l'éventail et le chapeau assorti. L'éventail était en papier épicé et dégageait une odeur agréable quand elle l'agitait. C'était la dernière vogue à Terrilville. Et puis Dilo n'avait même pas cherché à savoir s'il y avait du nouveau pour le bateau, s'il y avait eu une demande de rançon.
« Sortons nous mettre à l'ombre !» proposa Malta.
« Non, pas encore. »
Dilo regarda autour d'elle dans la pièce comme pour s'assurer que personne ne les espionnait. Malta réprima un soupir. Il n'y avait plus de servante pour écouter aux portes. Avec des mines de conspiratrice, Dilo tira une petite bourse de sa ceinture. À voix basse, elle confia.
« Serwin t'envoie ceci pour t'aider dans ces moments difficiles. »
Un bref instant, Malta fut près de partager le plaisir que prenait Dilo à ce moment théâtral. Puis l'instant s'envola à tire d'elle. Quand elle avait appris la capture de son père, elle avait trouvé la nouvelle palpitante, tragique. Elle s'était empressée d'exploiter la situation dans toutes ses possibilités dramatiques. Mais les jours avaient passé, remplis d'angoisse et de tensions nerveuses, n'apportant aucune bonne nouvelle. Terrilville ne s'était pas rangé à leur côté. Des gens avaient exprimé une sympathie polie. Certains avaient envoyé des fleurs avec des mots de commisération, comme si Kyle Havre était déjà mort. Elle avait supplié Rayne de venir la voir. Il n'était pas venu. Et les jours passaient dans le désespoir et l'ennui mortel. Peu à peu, Malta en était arrivée à comprendre que tout cela était réel et sonnait peut-être le glas de la fortune familiale. Elle ne dormait plus à force d'y penser. Quand enfin elle s'endormait, elle faisait des rêves troublants. Elle était pourchassée par quelque chose qui voulait la soumettre à sa volonté. Les rêves dont elle se souvenait étaient comme des messages malveillants de quelqu'un décidé à anéantir ses espoirs. Hier matin, elle s'était réveillée en criant d'un cauchemar où le corps sans vie de son père s'échouait sur une plage. Il était peut-être mort. Si c'était le cas, alors tous ses efforts étaient pour rien. Ce jour-là, elle avait perdu courage, et depuis, elle avait été incapable de recouvrer espoir et énergie. Elle prit la petite bourse des mains de Dilo et s'assit. La physionomie mécontente de son amie montrait qu'elle s'était attendue à une réaction plus passionnée. Malta feignit d'examiner l'objet, une bourse de drap brodée et fermée par des cordons dorés. Serwin l'avait probablement achetée exprès pour ce cadeau. Elle se força à en éprouver du plaisir, mais penser à Serwin n'était plus aussi fascinant qu'avant. Il ne l'avait pas embrassée. Elle ne s'était toujours pas remise de sa déception. Mais la suite avait été encore pire. Elle avait cru que les hommes détenaient le pouvoir. La première fois qu'elle avait demandé à l'un d'entre eux d'user de son pouvoir pour elle, il s'était dérobé. Serwin Trell avait promis de l'aider, mais qu'avait-il fait? À la réunion des marchands, il l'avait dévisagé de façon plus qu'inconvenante. La plupart des gens devaient l'avoir remarqué. S'était-il levé pour soutenir Althea quand elle avait réclamé de l'aide? Non. Il s'était contenté de la regarder avec des yeux de veau. Personne ne l'avait aidé. Personne ne l'aiderait.
« Délivre-moi et je t'aiderai, je te le promets !»
Les paroles du dragon dans le rêve qu'elle avait partagé avec Rain résonnèrent tout à coup dans sa tête. Elle sentit un élancement douloureux, comme si un fil s'était brusquement tendu entre ses tempes. Elle aurait aimé aller s'allonger un moment. Dilo s'éclaircit la gorge et Malta s'aperçut subitement qu'elle tenait toujours dans ses mains le cadeau de Serwin. Elle tira sur les cordons et répandit le contenu de la bourse sur ses genoux. Il y avait quelques pièces et des bagues.
« Serwin va avoir de gros ennuis si papa découvre qu'il t'a donné ses bagues !» dit Dilo sur un ton accusateur. « La petite en argent, c'est maman qui la lui a offerte pour le récompenser d'avoir bien étudié. »
Elle croisa les bras et regarda Malta d'un air désapprobateur.
« Il n'en saura rien !»
répondit Malta d'une voix morne.
Dilo était tellement enfant. Les bagues ne valaient guère qu'on se donne le mal de les vendre. Dilo trouvait sans doute le présent mirifique, mais Malta n'était pas dupe.
Après toute une matinée passée le nez dans les livres de comptes, elle savait que le contenu de la bourse suffirait à peine à embaucher deux bons ouvriers pour une semaine.
Serwin était-il aussi ignorant que sa sœur des questions d'argent?
Elle avait beau avoir les comptes en horreur, elle avait fini par acquérir une bien meilleure notion de l'argent. Elle se rappela son brusque dépit en comprenant de quelle stupide façon elle avait dépensé les pièces données par son père. Elle aurait eu de quoi acheter une dizaine de robes. Les petites pièces d'or valaient beaucoup plus que tout le contenu de cette bourse. Si seulement elle les avait aujourd'hui. Cet argent aurait contribué dans une bien plus large mesure à tirer le bateau du sable. Serwin ne saisissait absolument pas l'ampleur du problème. C'était aussi décevant que ce baiser manqué.
« Pourquoi n'a-t-il rien dit à la réunion ? »
demanda-t-elle tout haut.
« Il sait ce qui est en jeu. Il sait ce que cela signifie pour moi, mais il n'a rien fait. »
Dilo prit la mouche.
« Mais si, il a fait tout ce qu'il a pu. Il a parlé à papa à la maison. Papa a dit que c'était une situation très compliquée et que nous ne devions pas nous en mêler.
« Qu'est-ce qui est compliqué ? »
rétorqua Malta.
« Mon père a été enlevé et nous devons aller à son secours. Nous avons besoin d'aide. »
Dilo croisa les bras et inclina la tête.
« C'est une affaire vestrite. La famille Trell ne peut pas résoudre le problème à votre place. Nous avons nos propres intérêts à préserver. Si nous participons financièrement à la recherche de ton père, qu'en retirerons-nous ? » « Dilo !»
Malta était indignée. La peine qu'elle ressentit était sincère.
« Il s'agit de la vie de mon père, le seul qui se soucie vraiment de ce que je vais devenir. Il ne s'agit pas d'argent ni de profit. »«
Tout se réduit au profit, en fin de compte, »
déclara brutalement Dilo. Puis son expression s'adoucit.
« C'est ce que mon père a dit à Serwin. Ils se sont querellés, Malta. J'ai eu peur. » La dernière fois que j'ai entendu deux hommes crier, c'était quand Brachon était à la maison. Il se disputait tout le temps avec mon père. Du moins, il restait planté comme un piquet pendant que mon père hurlait. Je ne me rappelle pas bien, j'étais petite. Il me renvoyait toujours de la pièce. Puis un jour, mon père m'a dit que Serwin était désormais mon frère unique, que Brachon ne reviendrait jamais à la maison.
Elle eut un instant d'hésitation.
« Les disputes ont cessé, »
fit-elle en déglutissant.
« Ce n'est pas comme chez toi, Malta. Vous vous disputez, vous criez, vous vous dites des choses terribles, mais vous vous soutenez. Vous n'avez jeté personne dehors pour toujours, pas même ta tante Althea. Dans ma famille, ce n'est pas comme ça. Il n'y a aucun retour possible. »
Elle secoua la tête.
« Si Serwin avait continué à discuter, je n'aurais même plus de frères maintenant. J'en ai peur. »
Elle lança à Malta un regard suppliant.
« Je t'en prie. Ne lui demande pas de t'aider, je t'en prie. »
La prière toucha Malta.
« Je suis désolé, »
dit-elle maladroitement. Elle n'avait jamais songé que les expériences tentées sur Serwin puissent affecter d'autres que lui. Ces derniers temps, tout semblait plus grand, plus vaste qu'autrefois. Au début, la capture de son père lui avait paru irréelle. Elle avait profité de l'occasion pour se laisser aller à son goût du tragique. Elle avait joué le rôle d'une fille frappée par le malheur, mais elle avait vraiment cru au retour imminent de son père. Les pirates n'avaient pas pris son papa pour de vrai. Pas le beau, l'intrépide Kyle Havre. Pourtant, petit à petit, la réalité s'était imposée. D'abord, elle avait craint pour elle-même. S'il ne rentrait pas, sa vie à elle ne changerait pas. Elle comprenait seulement maintenant qu'il pouvait ne jamais revenir. Elle rassembla les pièces et les bagues, les remit dans la bourse qu'elle tendit à Dilo.
« Il faut rendre cela à Serwin. Je ne veux pas lui attirer d'ennui. »
En outre, cela ne l'avançait à rien, mais elle ne le dit pas.
Dilo eut l'air horrifié. « Je ne peux pas. Il saura que je t'ai parlé. Il sera furieux contre moi. Je t'en prie, Malta, garde-la. Comme ça, je pourrai lui dire que je te l'ai donné. Et aussi, il voudrait que tu lui écrives un mot ou que tu lui envoies un gage d'amour. »
Malta la regarda simplement. Parfois, surtout depuis quelque temps, elle se sentait vide, sans idée ni projet. Il fallait qu'elle se lève, qu'elle fasse les 100 pas. Il fallait qu'elle dise quelque chose comme
« Il me reste si peu de choses à moi, j'ai presque tout vendu pour sauver mon père. »
Il fut un temps où ses paroles auraient paru si belles, si romanesques. Elle s'était sentie une héroïne quand elle avait vidé sa boîte à bijoux sur la table le premier jour. Elle avait trié bracelets, bagues et colliers, les avait empilés, comme le faisait grand-mère, tante Althea et sa mère. On aurait dit un rituel. Les commentaires à voix basse semblaient des prières.
« C'est de l'or, c'est de l'argent, c'est démodé, mais les pierres sont belles. » Et toutes les petites histoires si familières qu'elle s'était racontées.
« Je me rappelle quand papa m'a donné ça, c'était ma première bague. Regarde, elle ne me va même plus au petit doigt maintenant. » Ou bien grand-mère qui disait « Elle sent encore si bon !» Et Althea qui ajoutait « Je me souviens du jour où papa les a choisis pour moi. Je lui ai demandé pourquoi il achetait des pierres parfumées alors qu'il n'aimait pas les objets venant du désert des pluies. Et il a répondu que tu en avais si grande envie que cela lui était égal. » Elle se racontait ses histoires tout en triant l'or et les bijoux, souvenir d'un temps meilleur. Mais aucune d'elles n'avait bronché, aucune n'avait caché quoi que ce fût, pas même ses larmes. Malta avait voulu rajouter les cadeaux de Rain, mais elle l'avait persuadée de les garder pour le cas où elle viendrait à éconduire son prétendant. Il faudrait rendre les présents. Dans sa mémoire, ce matin-là était baigné d'une clarté mélancolique. Chose curieuse, elle s'était alors sentie adulte comme jamais auparavant. Mais depuis, la réalité, c'était la boîte à bijoux qui béait vide sur sa coiffeuse. Il restait bien des ornements d'enfant, des épingles en émail et des perles en coquillage, ainsi que les cadeaux de Reine, mais elle ne pouvait pas les porter quand les autres n'avaient plus de bagues ni de bijoux. Elle se leva et alla vers le petit bureau. Elle prit une plume, de l'encre et une mince feuille de papier. Elle écrivit à la hâte
« Cher ami, merci beaucoup pour cette pensée affectueuse dans ces moments difficiles, très sincèrement. »
Les mots lui rappelèrent les billets polis qu'elle avait aidé à écrire pour remercier ceux qui avaient envoyé des fleurs. Elle signa de ses initiales, puis plia le billet et le scella d'une goutte de cire. En le donnant à Dilo, elle fut même étonnée de sa propre attitude. Il y a à peine une semaine, elle aurait rédigé sa lettre avec soin. Elle l'aurait truffée de sous-entendus et d'insinuations. Elle parvint à sourire tristement.
Les mots sont banals, mais mes sentiments sont beaucoup plus forts que ceux que je me risque à confier au papier. Voilà qui lui laisserait de l'espoir. C'était tout ce dont elle était capable par cette chaleur. Dilo prit le billet et le glissa dans sa manchette. Elle regarda autour d'elle.
« Eh bien, »
dit-elle déçue,
« il faut que je rentre, je crois. »
« Je ne suis pas de bonne compagnie aujourd'hui, » admit Malta.
« Je te raccompagne. »
À la porte, une voiture à poney et un cocher attendaient Dilo. Cela aussi, c'était nouveau. Les Trelles se préparaient manifestement à présenter leur fille au bal de l'été. Malta y serait présentée en même temps. On lui taillait une toilette dans de vieilles robes. Ses escarpins seraient neufs, ainsi que la capeline et l'éventail. Du moins, l'espérait-elle. Rien de certain, désormais. Elle se rendrait au bal dans la vieille voiture de David Restart, probablement. Une humiliation de plus qu'elle n'avait pas le courage d'envisager pour le moment. À la porte, Dilo la serra dans ses bras et l'embrassa sur la joue, comme si elle répétait une finesse récemment apprise. « C'est probablement le cas, » pensa Malta avec amertume. La plupart des jeunes filles de bonne famille étaient instruites des subtilités de l'étiquette avant d'être présentées. Encore une petite chose dont elle serait privée. Elle referma la porte pendant que Dilo lui disait au revoir en agitant son éventail. La revanche était mesquine, mais réconfortante. Elle emporta la petite bourse dans sa chambre et répandit sur le lit les pièces et les bagues. Le tas n'avait pas grossi. Elle l'examina en se demandant comment elle pourrait ajouter cette modeste contribution à l'argent déjà rassemblé pour le navire sans avoir à expliquer sa provenance. Elle fronça les sourcils. Était-elle donc incapable de rien faire comme il fallait? Elle ramassa le tout, le remit dans le petit sac qu'elle cacha dans son coffre à couverture. Puis elle se jeta sur son lit pour réfléchir. Il faisait trop chaud. Il y avait trop à faire. Le désherbage du potager, les herbes à cueillir, à nouer et à suspendre, sa robe pour le bal d'été à terminer. Elle n'avait pas le cœur d'y travailler, après avoir vu Dilo dans ses nouveaux atours. Tout le monde devinerait que sa robe était taillée dans de vieilles nippes. Oh, comme elle en avait rêvé de ce premier bal! Elle s'était imaginée entrant au bras de son père, parée d'une robe somptueuse. Elle sourit amèrement et ferma les yeux. À croire qu'elle était victime d'un sort. Toutes ces choses délicieuses, merveilleuses, romantiques, elle ne les aurait jamais. Vaguement somnolente, elle fit le compte de ses déceptions. Pas de jolie robe ni de voiture pour le bal. Pas d'intrépide capitaine de pair pour l'escorter. Serwin l'avait déçu, et il ne savait même pas quand embrasser une fille. Rain n'était pas venu. Elle avait la vie en horreur. Les problèmes étaient trop graves. Elle était prise au piège dans une existence qu'elle était impuissante à changer. Il faisait trop chaud. Elle suffoquait. La chaleur l'oppressait. On manquait d'air. Elle voulut se rouler sur son lit, mais il n'y avait pas assez de place. Déconcertée, elle voulut s'asseoir. Sa tête heurta un obstacle. Elle leva les mains et ne trouva sous ses doigts que du bois humide et vermoulu. L'humidité provenait de sa propre haleine. Elle ouvrit les yeux sur les ténèbres. Elle était prisonnière là-dedans, prisonnière et personne ne s'en souciait. D'un geste désespéré, elle appliqua les mains sur les parois de sa prison.
« Au secours, faites-moi sortir d'ici, au secours !»
Elle poussait des mains, des coudes, des genoux et des pieds. Rien ne cédait. La claustration n'en paraissait que plus étroite. Le peu d'air qu'elle avait pour respirer était déjà chaud et humide de sa propre haleine. Elle en manquait pour crier.
« C'est un rêve !» se dit-elle.
Elle se força à l'immobilité.
« C'est un rêve. Je suis en sécurité dans mon lit. Je n'ai qu'à me réveiller tout de suite. Réveille-toi !»
Elle s'étira, essaya d'ouvrir les yeux en contractant les muscles des paupières. Impossible. Elle n'avait même pas la place de porter les mains à son visage. Prise de panique, elle commença à haleter convulsivement. Un gémissement lui échappa.
« Tu vois maintenant pourquoi il doit me délivrer. Aide-moi. Oblige-le à me délivrer. Je te promets de t'aider. Je te ramènerai ton père et le navire. Oblige-le à me délivrer. C'est tout ce que je te demande. »
Elle connaissait cette voix. Elle l'avait entendue résonner dans ses rêves depuis qu'elle avait partagé ce songe avec Rain.
« Laisse-moi sortir !» supplia-t-elle. « Laisse-moi me réveiller !»«
Tu l'obligeras à m'aider ?»«
Il dit qu'il ne peut pas !»
halta-t-elle.
« Je crois qu'il le ferait s'il le pouvait !»«
Oblige-le à trouver un moyen !»«
Je ne peux pas !»
Une deuxième chape de ténèbres tomba sur Malta. Elle allait s'évanouir. Pouvait-on s'évanouir en rêve ?«
Laisse-moi sortir !»
criait-elle faiblement.
« Je t'en prie, je n'ai pas d'autorité sur Rain. Je ne peux pas le forcer à faire quoi que ce soit !»
Le dragon laissa échapper un rire ample et profond.
« Ne dis pas de sottises. Il n'est qu'un homme. Toi et moi, nous sommes des reines. Nous sommes destinés à dominer nos mâles. C'est l'équilibre du monde. Réfléchis-y. Tu sais très bien comment obtenir ce que tu veux. Vas-y, délivre-moi !»
Malta se sentit brutalement projetée dans l'obscurité. Autour d'elle, plus de limites. Elle chercha une prise, mais ses mains tendues ne trouvaient que le vide. Elle tombait dans le noir, tandis que le vent hurlait à ses oreilles. Elle atterrit lourdement sur une surface molle. Elle ouvrit les yeux sur sa chambre, par une chaude journée d'été. La lumière éblouissante se déversait par la fenêtre ouverte.
N'oublie pas.
Quelqu'un prononça le mot tout contre son oreille. Elle l'entendit. Mais il n'y avait personne. Le soir venu, il se trouva qu'ils avaient abattu plus de besogne qu'en deux jours. Pourtant, combien d'ouvriers reviendraient-ils le lendemain? Brashen ne pouvait leur en vouloir. Il ne comprenait pas lui-même pourquoi il restait. Ce n'était pas son navire qui était en danger, ni son neveu. Quand il s'interrogeait sur les raisons qui le poussaient à continuer, il en revenait toujours à la même conclusion négative. Il continuait parce qu'il n'avait rien de mieux à faire. La veille du printemps avait disparu dans la nuit le lendemain de son débarquement. Sans doute Faini avait-il flairé du louche, décidé de limiter les pertes et de filer. Pas de retour possible à cette vie. Il s'avouait rarement que c'était là la seule façon de côtoyer Althea. Sa fierté l'en empêchait. Elle lui manifestait moins d'intérêt encore qu'à Cliff. Au moins souriait-elle au gamin. Il la regarda à la dérobée. Elle avait les cheveux collés de sueur. Elle portait de larges pantalons blancs et une ample tunique de même tissu. Le sable adhérait à ses habits et à sa peau humide. Elle se dirigea vers les seaux d'eau, but avidement, puis s'aspergea le visage et le cou. Il mourait d'envie de la voir près de lui, et ce désir douloureux l'oppressait. Il se rappela qu'elle était pratiquement fiancée à Grac Ténira. Celui-ci n'était pas un mauvais marin, il serait riche un jour. Brashen se força à être content pour elle. Elle aurait pu tomber plus mal. Elle aurait pu se satisfaire d'un fils de marchand déshérité. Il secoua la tête et jeta son maillet dans le sable.
« On arrête !»
cria-t-il brusquement. De toute façon, le soir tombait. Althea et Ambre se retirèrent dans la coquerie tandis que Brashen payait l'équipe. Il s'attarda sur son registre après le départ du dernier ouvrier en branlant du chef sur ses additions. Ronica Vestrit lui avait donné son blanc-seing pour disposer de l'argent nécessaire au radoub du navire. Althea avait constaté avec surprise que les connaissances de Brashen en charpenterie de marine excédaient de loin les compétences d'un second. Il avait éprouvé une certaine satisfaction devant son étonnement, mais sa tâche n'en était pas facilitée pour autant. Il hésitait longuement. Fallait-il privilégier la qualité des matériaux ou celle des artisans? De toute manière, il arrivait que les meilleurs ouvriers fassent défaut. La réputation du parangon était bien établie, et son récent comportement ne contribuait guère à la démentir. La plupart des charpentiers, tout en se défendant d'être superstitieux, prétendaient que leurs clients se détourneraient d'un homme qui avait travaillé sur ce navire. Qu'importaient les excuses qu'il donnait à Brashen? Seul importait le retard pris. Le temps était leur plus sérieux ennemi. De jour en jour, il devenait plus improbable de retrouver la trace de Vivacia. Il fallait en outre compter avec la marée. Une grande marée était prévue à la fin du mois. Brachen espérait que ce serait celle qui remettrait Parangon à flot, mais... Et c'était bien là l'aspect le plus contrariant. La plupart du travail qu'ils pouvaient raisonnablement effectuer par eux-mêmes ne pouvait être mené à bien qu'une fois le gros œuvre terminé. Chaque tâche dépendait de l'achèvement de la précédente. Quand il se décida à rejoindre les femmes, elles n'étaient plus dans la coquerie. Il se laissa guider par leur voix et les trouva assises à l'arrière inclinées. Côte à côte, jambes pendantes, on aurait dit deux mousses qui tiraient au flanc. Ambre avait pris l'habitude ces derniers temps d'attacher ses cheveux couleur de miel en queue de cheval, coiffure qui ne la flattait pas. Ses pommettes, l'arête de son nez anguleuse manquaient de féminité. Par contraste, le profil d'Althea, en dépit des traces de goudron sur ses joues, bouleversa Brachen. Sa féminité à elle, dénuée de douceur, était féline, aussi menaçante qu'attirante. Elle en était inconsciente. Il la regarda et regretta amèrement de l'avoir touchée. Ce n'était pas tant qu'il eût tout gâché au point qu'elle évitait de croiser son regard. Le pire, c'était qu'il ne pouvait plus poser les yeux sur elle sans se rappeler le goût de sa peau, la fraîcheur de son corps. Il ferma brièvement les paupières puis s'avança vers les deux femmes. Elles tenaient des tasses fumantes. Un gros pot était posé entre elles avec une tasse en plus. Brachen se servit. Il hésita à s'asseoir puis décida de rester debout. Amble contemplait la mer. Althea promenait un doigt sur le bord de sa tasse tout en observant le mouvement des vagues. Leur conversation s'était interrompue à son approche. Ambre, consciente du moment d'embarras, leva les yeux vers lui.
« On recommence tôt, demain ?»«
Non, » dit laconiquement Brachen avant d'avaler une gorgée de son breuvage. « Je ne crois pas. Je vais sans doute perdre ma matinée à dénicher de nouveaux ouvriers. »
« Pas encore !» grogna Althea. « Il s'est passé quelque chose ?»
Brachen ouvrit la bouche pour répondre, puis serra les mâchoires et secoua la tête. Elle se frotta les tempes. « Au moins, il a fini par t'adresser la parole ?» demanda-t-elle à Ambre sur un ton optimiste.
« Pas à nous !» rétorqua Ambre découragée. « En revanche, il en avait des choses à débiter à l'équipe de travail. » Surtout des rosseries à voix basse. Et puis il s'est mis à leur dire qu'ils auraient des enfants infirmes et aveugles parce qu'ils avaient travaillé à un navire maudit.
Elle ajouta avec une admiration empreinte d'amertume.
Ces descriptions étaient très pittoresques.
Eh bien voilà au moins qui dénote de l'imagination. Il ne lance plus de madriers, c'est déjà ça.
Peut-être qu'il en garda en réserve pour demain,
intervint Brachen. Ils retombèrent dans un silence abattu.
« Alors, on renonce ?»
demanda Ambre tristement.
« Non, pas encore. Laissez-moi finir ma tasse et méditer sur nos maigres chances d'en sortir. »
proposa Brachen, puis il fronça les sourcils et se tourna vers Althea.
« Où étiez-vous ce matin à propos ?»
Sans le regarder, elle répliqua d'une voix froide.
« Bien que je ne vois pas de quel droit vous me posez la question, je suis allé rendre visite à Greg. »«
Je croyais que Ténira se cachait. Sa tête est mise à prix et tout ça. »
répondit Brachen sur un ton détaché. Puis il avala une gorgée de tisane et contempla la mer.
« Il se cache. Il a trouvé le moyen de me faire parvenir un mot. Je suis allé le voir. »
Brachen haussa une épaule.
« Eh bien, voilà au moins un problème de réglé. Quand nous serons à court d'argent, vous pourrez toujours le dénoncer aux fonctionnaires du gouverneur. On utilisera la récompense pour embaucher une nouvelle équipe. »
fit-il avec un sourire narquois qui dévoila ses dents. Althea ne daigna pas répondre et s'adressa à Ambre.
« Greg regrette de ne pouvoir m'aider. Sa situation ne facilite pas les choses. Les Ténira n'ont presque rien retiré de la cargaison de l'Ophélie. » Ils ont décidé de ne plus faire de commerce à Terrilville ni à Jamelia tant que le gouverneur n'aura pas annulé ses taxes exorbitantes.
L'Ophélie n'est-elle pas partie il y a quelques jours ?
Demanda Brachen un pas vide.
En effet, Tommy pensait qu'il valait mieux l'éloigner du port avant que d'autres galères n'arrivent. Les fonctionnaires des taxes ont menacé de la saisir. Ils prétendent maintenant que c'est au gouverneur de réglementer le commerce des vives nefs et que les marchandises du désert des pluies ne peuvent être vendues qu'à Terrilville ou à Jamelia. Je doute qu'il soit en mesure d'imposer cela, mais Tommy a trouvé absurde de rester à attendre les ennuis. La famille Ténira continuera à se battre, mais il se refuse à exposer Ophélie.
« Si c'était moi, » dit Brachen, « je l'emmènerais sur le fleuve du désert des pluies. Personne ne la suivrait jusque-là, sauf une autre vive nef. »
Il inclina la tête.
« C'est leur idée, n'est-ce pas ? Grag les rejoindra clandestinement sur une autre vive nef. J'ai raison. »
Althea lui jeta un regard en biais et haussa les épaules. Brachen parut froissé.
« Vous vous méfiez de moi ?»«
J'ai promis de n'en parler à personne, »
expliqua-t-elle les yeux rivés sur les vagues.
« Vous croyez que je vais vendre la mèche ?» Il était indigné. Pour qui le prenait-elle ?
Pensait-elle vraiment que sa rivalité avec Grag le mènerait jusque-là ?
« Brachen, »
déclara-t-elle à bout de patience,
« ce n'est pas que je me méfie de vous. Je lui ai donné ma parole que je garderai le silence, et j'ai l'intention de tenir ma parole. »
« Je vois. »
Au moins avait-elle fini par s'adresser directement à lui.
Une question lui brûlait les lèvres.
Il se maudit, mais la posa tout de même.
« Il vous a demandé de partir avec lui ?»
Althea hésita.
« Il sait que je dois rester ici. Il comprend que je doive naviguer avec le parangon. »
Elle se gratta le menton, puis frotta la poussière de ses joues. Elle ajouta, irritée,
« J'aimerais bien le faire admettre à Kefria. Elle continue à râler auprès de ma mère en disant que ce n'est pas convenable. Elle désapprouve que je vienne aider ici. Elle déteste la façon dont je m'habille quand je vais travailler. Je me demande ce qu'elle approuverait d'ailleurs. » Peut-être devrais-je rester à la maison à me tordre les mains de désespoir ?
Brachen devinait qu'elle cherchait à changer de sujet, mais il ne put s'empêcher d'insister.
Grag sait bien que vous devez aller sur les traces de Vivacia, pour sûr. Mais il vous a quand même prié de venir avec lui, n'est-ce pas ? Il voulait malgré tout que vous veniez. Et vous devriez probablement. Limitez vos pertes, misez sur le vainqueur. Pas un marchand ne s'attend sérieusement à ce qu'on réussisse. C'est pour ça que personne n'a proposé de nous aider. Il pense que c'est du temps et de l'argent perdu. Je parie que Grag a toutes sortes de bonnes raisons pour vous convaincre de nous abandonner, y compris que nous ne tirerons jamais cette épave du sable.
Saisi d'une bouffée de colère irraisonnée, Brachen frappa des talons la coque du bateau.
« Ne le traitez pas d'épave !»
dit Ambre d'un ton sec.
« Et arrêtez de gémir !»
ajouta Althea méchamment. Brachen la regarda, outré. Alors il haussa le ton.
« Épave, déchet, tu m'entends, parangon ? C'est de toi que je parle !»
Les falaises renvoyèrent les échos de sa voix. Parangon ne répondit pas. Ambre le foudroya du regard, les narines dilatées.
« Cela ne va rien arranger !»
gronda-t-elle.
« Au lieu de chercher querelle à tout le monde, pourquoi n'allez-vous pas taper quelqu'un d'un peu de sindine ?»
demanda Althea d'un ton sarcastique.
« On sait bien que c'est ça votre problème. »«
Ah ouais !» fit Brachen en reposant sa tasse. « Et moi, je sais ce que c'est votre problème. »«
Ah bon ? C'est vrai ?»
prononça Althea d'une voix mortellement douce.
« Eh bien, pourquoi ne le dites-vous pas franchement ?»
Il se pencha sur elle.
Votre problème, c'est que l'hiver dernier, vous avez enfin compris qui vous étiez, et vous avez passé votre temps depuis à essayer de le nier. Cela vous a effrayé, alors vous avez filé chez vous pour tâcher d'oublier.
Elle s'attendait si peu à cette sortie qu'elle en resta sans voix. Il faillit sourire devant son ébahissement. Elle restait bouche bée, la tête levée vers lui qui se tenait campé sur le pont incliné.
« Et ne vous méprenez pas !»
ajouta-t-il d'une voix adoucie.
« Je ne parle pas de ce qu'il s'est passé entre nous. Je parle de ce qu'il s'est passé entre vous et vous-même. »
Rachentrel, je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler, déclara-t-elle vivement.
Ah bon ? Fit-il en souriant pour de bon cette fois. Eh bien, Ambre, c'est elle, aussi vrai que ça a des couilles et des seins. J'ai deviné qu'elle était au courant de tout dès que je suis arrivé à Terrilleville. C'était inscrit sur sa figure dès qu'elle m'a vu.
Drôle que vous discutiez de ça avec elle et pas avec moi. Mais je vous l'ai dit, là n'est pas la question. Vous êtes parti et vous avez découvert que vous n'étiez pas une fille de marchand. Oh, vous êtes bien la fille des Front Vestrites, ça c'est sûr, pas d'erreur.
Mais vous n'êtes pas plus lié à cette fichue ville et à ses traditions qu'il ne l'était. Ce commerce sur le fleuve du désert des pluies lui déplaisait, et par ça, il a cessé son commerce. Il a trouvé ses propres débouchés et ses propres marchandises.
Vous êtes comme lui jusqu'à la moelle. Si on voulait vous extirper ces tendances, ce serait trop tard. Vous ne pouvez rien y changer, mais vous devriez cesser de jouer la comédie.
Vous ne pouvez pas vous installer pour de bon et devenir la chère moitié de Grac Ténira. Si vous essayez, vous vous briserez le cœur à tous les deux.
Vous n'allez pas rester à la maison et lui faire des bébés pendant qu'il sera en mer, jamais de la vie. Vous débitez de beaux discours sur la famille, le devoir et les traditions,
mais si vous partez à la recherche de Vivacia, c'est parce que vous voulez récupérer votre fichu navire, et vous comptez bien le reprendre.
À supposer que vous ayez le cran de quitter à nouveau Terrilleville, c'est-à-dire.
Les mots lui avaient échappé. Il était hors d'haleine, presque haletant. Althea le regardait fixement. Il avait tellement envie de la tirer à lui, de la prendre dans ses bras. Elle lui fracasserait probablement la mâchoire. Elle finit par retrouver sa langue.
« Vous ne pourriez vous tromper davantage, » déclara-t-elle sans conviction.
À côté d'elle, Ambre dissimulait son sourire en plongeant le nez dans sa tasse. Quand Althea lui décocha un regard furieux, elle haussa les épaules. Soudain, Brachen fut saisi d'embarras. Dédaignant l'échelle de corde, il escalada la lisse et se laissa tomber lestement sur le sable. Sans un mot ni un regard en arrière, il s'éloigna à grands pas vers la figure de proue. Cliff avait allumé un petit feu. Préparer le repas du soir, c'était son travail. Sur le navire, il était occupé de multiples façons. Il avait rapporté de l'eau potable pour les hommes, après que Brachen avait lancé leur ration à la figure de Parangon. Il affûtait les outils, il faisait des courses, et quand venait le soir, il allait chercher des provisions chez les Vestrites et leur préparer le dîner. Ronica leur avait proposé de manger à sa table, mais Ambre avait courtoisement décliné en disant qu'elle préférait ne pas laisser Parangon tout seul. L'excuse avait été commode pour Brachen. Il ne pouvait dissimuler son angoisse. S'asseoir à une table où il devrait se montrer poli aurait excédé ses forces. Ça, comme il aurait aimé avoir un tout petit bout de sindine, juste assez pour calmer ses démangeaisons.
« Alors, qu'y a-t-il pour dîner ? » demanda-t-il au garçon.
Cliff le regarda d'un œil vitreux mais ne répondit pas.
« Ah, tu ne vas pas commencer avec moi, petit !»
le menaça Brachen dont la colère se ranimait.
« De la soupe fraîche, capitaine ?»
Cliff fit la grimace en claquant la cuillère en bois dans la marmite. Il considéra la soupe en murmurant avec défi.
« C'est pas un déchet !»
Alors voilà ce qui le tarabustait, le gamin. Brachen se radoucit.
« Non, Parangon n'est pas un déchet. C'est pour cela qu'il ne devrait pas se conduire comme tel. »
Il se tourna pour regarder la figure de proue qui se découpait, silencieuse sur l'obscurité croissante. Il s'adressa à Parangon plus qu'au petit.
« C'est un sacré beau navire. Avant que ce soit fini, il s'en souviendra, ainsi que tout le monde à Terrilleville. »
Cliff se gratta le nez, puis remua la marmite.
« Il portait malheur ?»«
Il porte malheur !» corrigea Brachen d'un ton las.
« Non, seulement il n'a pas eu de chance depuis le début. Quand tu n'as pas de chance et que tu ajoutes à ça tes propres erreurs, tu crois parfois que tu ne t'en sortiras jamais. »
Il eut un rire sans joie.
« Je te parle d'expérience. »«
Vous n'avez pas de chance ?»
Brachen fronça les sourcils.
« Exprime-toi clairement, mon garçon. Si tu viens naviguer avec moi, il faudra que tu sois capable de te faire comprendre. »
Cliff renifla. «
Je dis, vous avez pas de chance ?
Plus que certain, répondit Brashen en haussant les épaules, mais moins que la plupart.
Tournez votre chemise. Mon père, il me disait pour faire tourner ta chance, retourne ta chemise.
Brashen sourit malgré lui. C'est la seule chemise que j'ai, mon gars. Ça en dit long sur ma chance, pas vrai ?
Althea se leva brusquement en lançant le contenu de sa tasse sur la plage.
« Je rentre !»
annonça-t-elle.
« Adieu !»
répondit Ambre d'une voix neutre. Althea donna une grande claque sur la lisse.
« Je le savais, qu'il me le lancerait à la figure un jour. Je l'ai toujours su. C'est ce que je craignais depuis le début. »
Ambre demanda perplexe.
« Lancer quoi à la figure ?»
Bien qu'elle fût seule sur un bateau isolé, elle baissa la voix.
Que j'ai couché avec lui. Il sait qu'il peut ruiner ma réputation avec ça. Il n'a qu'à s'en vanter à qui veut l'écouter.
Une étincelle s'alluma dans les yeux d'Ambre.
J'ai entendu bien des sottises de la part de gens angoissés ou blessés, mais celle-là, c'est la meilleure. Je ne crois pas qu'il ait jamais songé à se servir de cette arme. Je ne pense pas qu'il soit vantard. Je ne crois pas non plus qu'il te ferait sciemment du mal.
Un silence gêné plana durant quelques minutes.
« Tu as raison, je le sais, »
finit par admettre Althea.
« Je me dis parfois que j'ai simplement besoin d'un prétexte pour être furieuse contre lui. »
Elle croisa les bras sur la poitrine.
« Mais pourquoi faut-il qu'il dise des bêtises pareilles ? Pourquoi faut-il qu'il me pose toutes ces questions ?»
Ambre laissa passer un moment, puis elle interrogea à son tour.
Et pourquoi cela te contrarie-t-il à ce point ?
Althea secoua la tête.
Chaque fois que je commence à me sentir bien, à être satisfaite de ce que nous faisons, il... On a passé une bonne journée aujourd'hui. Par ça, on a travaillé dur et on était bien ensemble. C'était comme avant. Je sais comment il travaille, je le devine. C'est comme danser avec un bon partenaire. Et puis... Juste quand je commence à penser qu'on va de nouveau être à l'aise ensemble, il faut qu'il...
Elle laissa la phrase en suspens.
Il faut qu'il quoi ?
Insista Ambre.
Il faut qu'il me pose des questions ou qu'il dise quelque chose. Autre chose que... Passer sous le madrier ou... Donnez-moi le maillet ?
Fit Ambre d'un ton suave.
Althea eut un sourire pitoyable.
Exactement. Quelque chose qui me rappelle nos conversations au temps où nous étions amis. Cela me manque. J'aimerais qu'on puisse retrouver ça. Et pourquoi ne peux-tu pas ? Ce ne serait pas bien.
Elle fit la grimace.
Il y a Greg maintenant et... Et quoi ? Et cela pourrait nous mener plus loin peut-être. Et de toute façon, Greg désapprouverait. Greg désapprouverait que tu aies des amis ?
Althea se renfrogna.
Tu sais bien ce que j'entends par là. Greg n'aimerait pas que je sois ami avec Brashen. Je ne veux pas dire ami poli, mais ami comme avant. À l'aise, les pieds sur la table devant une chope de bière.
Ambre rit doucement.
Althea... D'ici peu, nous allons tous naviguer sur son bateau. Tu vas faire des chichis avec quelqu'un qui travaillera à tes côtés tous les jours ? Quand nous serons en mer, plus de Brashen qui tiennent. Il sera le capitaine. Il s'est déjà chargé de me le rappeler. On n'est pas copains avec le capitaine.
Ambre inclina la tête et scruta son ami dans l'obscurité.
Alors de quoi t'inquiètes-tu ? Le temps va tout arranger, il me semble.
Althea déclara très bas.
Peut-être que je ne veux pas que ça s'arrange. Pas de cette façon.
Elle examina ses mains. Peut-être que j'ai plus besoin de l'amitié de Brashen que de l'approbation de Greg.
Ambre haussa une épaule. Alors, peut-être devrais-tu recommencer à lui parler ? Et pour lui dire autre chose que « Tenez,
Voilà le maillet.